France Inter.
Il est 7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est députée européen, vice-président de la Commission des droits de l'homme au Parlement européen.
Et bonjour Bernard Guetta.
Bonjour Léa.
Ça fait plaisir de vous entendre à nouveau sur Inter. Terrorisme d'État, abominable trafic d'êtres humains, voilà ce qu'on entend ces dernières heures. Pierre Aski nous en parlait hier de ce piège dans lequel est enfermée l'Union européenne, à la frontière avec la Biélorussie, où sont parqués donc près de 4000 migrants, syriens et irakiens, principalement des Kurdes. Vous écrivez, Bernard Guetta, dans Libération, je dois bien l'avouer, même ironiquement, même douloureusement, les Polonais ne peuvent pas ouvrir leurs frontières à tous ces réfugiés proche-orientaux. S'ils le faisaient, ils seraient vite débordés par un flux croissant d'hommes, de femmes et d'enfants. Sauf que la température est si basse que ces réfugiés meurent de froid. Au sens propre de ces deux mots, ils n'ont pas froid. Ils en meurent. Avant de nous dire ce qu'il faut faire, ce que l'Union européenne doit faire, dites-nous d'abord comment on en est arrivé là.
Par un cheminement très simple, l'Union européenne s'affirme depuis 5 ans. Elle est entrée dans le troisième moment de l'histoire de son unité. Ce troisième moment, c'est l'union politique. Ça sera, plus exactement, l'union politique. Le tabou est totalement tombé sur l'idée de défense commune européenne. Le tabou est totalement tombé sur l'idée de politiques industrielles communes. Évidemment, sur l'idée d'une recherche commune. Et cette affirmation politique, ce début d'affirmation politique de l'Union européenne inquiète énormément beaucoup de gens à travers le monde. La Chine, lointainement, mais beaucoup plus près de nous. Monsieur Poutine. Monsieur Poutine préfère, évidemment, il aime tellement l'Europe qu'il en préfère 27 qu'une seule.
Donc ce qui se passe là, à la frontière, pour être clair, à la frontière avec la Biélorussie et la Pologne, c'est directement décidé par Vladimir Poutine. Écoutez, pour déstabiliser l'Union européenne ou pour faire payer les Polonais qui ont une tentation
anti-russe? Pour déstabiliser l'Union européenne. Évidemment que Monsieur Loukachenko, le dictateur belarusse, voudrait se venger des sanctions prises contre lui, mais profondément, ce qui se passe, c'est que Monsieur Poutine, le mentor de Monsieur Loukachenko, ne veut pas de cette affirmation politique et qui de l'Union européenne, et donc qu'il essaye de la diviser, de la déstabiliser. Et je dois dire, beaucoup, c'est bien réussi. C'est immonde, c'est abominable, c'est évidemment condamnable, bien sûr, à tout point de vue.
Il arrive à déstabiliser l'Union européenne.
Non, je ne dirais pas ça.
Vous dites qu'il y réussit.
Attendez, non, je dis c'est bien pensé. C'est bien pensé parce que il appuie là où ça fait mal. Pas de mystère, évidemment qu'il y a des désaccords dans l'Union européenne sur l'accueil des migrants. Mais là, c'est pas une crise migratoire, c'est un coup politique organisé. C'est tout à fait différent.
Expliquez-nous ce qui se passe. En fait, Alexandre Loukachenko, le président biélorusse.
Non, vous pouvez dire le dictateur.
Non, j'ai hésité. Va chercher des Syriens et des Irakiens chez eux, en avion. C'est pas des migrants qui sont là. Va les chercher. Il envoie des avions pour les affréter. Il les amène. Il les amène à Minsk. Il les emmène en convoi vers la frontière
taxi,
avec la
autobus,
Pologne.
Tout ce que vous voulez.
Et il leur dit, vous passez. Il les utilise en bouclier.
Alors humain. Léa, premièrement, il leur dit, vous passez. Et deuxièmement, quand ils essayent de faire demi-tour en se heurtant aux barbelés polonais, eh bien, les gardes frontières bélarusses tirent en l'air, d'accord. Mais tirent, tout simplement. Et les matraquent et les gaz lacrymogène et tout ce que vous voulez.
Alors on fait quoi? Est-ce qu'il faut les accueillir, ces 4000 migrants? On voit bien le piège dans lequel l'Union européenne est. Si elle les accueille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une victoire de Loukachenko, de Poutine, et que ça va les encourager à continuer leur trafic.
Non, vous avez raison. Mais il y a une certitude, c'est qu'on ne peut pas laisser ces malheureux dans un no man's land, une forêt, des marécages, c'est invraisemblable comme paysage, et il fait -0. Il fait -0. C'est la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Ces gens, on le disait tout à l'heure, meurent de froid au sens propre de ces deux mots. Donc il faut aller les secourir. Mais la deuxième chose...
Est-ce qu'il faut les accueillir? Il faut aller les secourir?
Non, ça je ne le pense pas. Il faut aller les secourir et il faut dire parallèlement à Monsieur Loukachenko, si vous continuez, il faut lui poser un ultimatum. Il faut lui dire, si vous continuez, c'est très simple. Premièrement, il n'y a plus de possibilité d'organiser les exportations du Bélarus vers la mer Baltique, c'est par là que ça passe, et pour aller vers la mer Baltique, il faut traverser deux pays de l'Union européenne, la Lituanie et la Pologne. Eh bien, vous ne pouvez plus passer. À ce moment-là, on l'étrangle économiquement. On l'étrangle économiquement.
Ça va le faire céder. Il est déjà sous sanction. Le régime de Loukachenko
non,
est déjà sous sanction.
Non, non, écoutez, les sanctions, elles ne sont pas si fortes que cela. Loin de là. Devant un tel défi, qui est un défi véritablement militaire. Alors, quand je dis militaire, c'est pas les armes, c'est pas les chars, c'est pas l'aviation.
C'est une guerre hybride, vous diriez, comme Ursula von der Leyen.
Mais complètement. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, c'est une guerre qui est menée par d'autres moyens que des moyens strictement militaires. Mais c'est une agression, bien entendu. Et donc, il faut lui dire, écoutez, maintenant, c'est sérieux, vous nous faites la guerre, eh bien, nous aussi, nous aussi. Alors, réfléchissez bien. Et si nous le faisions, parce que je ne suis pas encore certain qu'on le fasse, je l'espère, je milite pour, ardemment, au Parlement européen, partout, etc. Mais si nous le faisions, je crois que ce serait une occasion de renforcer considérablement à la fois l'unité et le poids politique de l'Union européenne.
Est-ce qu'il faut construire des barbelés? Est-ce que l'Union européenne doit financer la construction?
Certainement pas. Certainement.
Alors, là, il y a un désaccord à la tête de l'Union européenne entre Charles Michel, le président.
Plus ambigu. Malheureusement, je sais.
Bernard, vous êtes devenu diplomate, mais il l'a dit clairement. Il l'a dit clairement, Charles Michel. Il faut ouvrir la question de la construction des financements.
Il faut ouvrir la question,
oui,
justement.
Ça veut dire je suis pour.
Non, ça, je crois pas.
Ah, bon, vous me traduisez le langage européen. En tout cas, Charles Michel, le président du Conseil européen, semble favorable,
oui.
Je le mets dans ma bouche, et Ursula von der Leyen ne le veut pas. Vous vous dites qu'il ne faut absolument pas construire de barre.
Non, mais bien sûr, on ne va pas reconstruire un mur au cœur de l'Europe 30 ans après la chute du mur de Berlin. Et tout cela pour 3000 personnes. Pour 3000 personnes. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas le million de réfugiés de 2015. Ça n'a rigoureusement rien à voir. Rigoureusement. On va construire un mur pour 3000 personnes.
Vous dites dans votre, vous écrivez aussi dans votre tribune de Libération, j'ai honte que l'Union ait collectivement si peur des réfugiés dès lors qu'ils sont musulmans. C'est donc ça dont il s'agit. Le piège se referme sur l'Europe là parce qu'ils sont musulmans. C'est le non-dit de l'histoire.
La Pologne accueille à bras ouverts, généreusement, et je l'en félicite, les réfugiés politiques du Bélarus. Mais 3000 Kurdes arrivent, ils sont musulmans, les barbelés. C'est une phobie, c'est une folie, c'est une absurdité, c'est n'importe quoi, c'est un délire.
Les questions identitaires et d'immigration écrasent les débats politiques de ce début de campagne présidentielle en France. Comment vous jugez cela, Thomas Legrand parlait?
Oui, je l'ai écouté attentivement. Vous savez, vu de Bruxelles, parce que maintenant je passe les trois quarts de ma vie à Bruxelles, vu de Bruxelles, l'évolution politique de la France est véritablement étrange. La plupart de mes collègues des 26 autres pays n'arrêtent plus de me dire « Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Enfin, pourquoi cette obsession sur l'identité, sur le, etc. Vous êtes un pays fort. Vous êtes un pays fort. Nous sommes un pays fort. Les Français l'oublient. Je vous assure que vu de l'étranger, vu de Bruxelles, vu de l'Union européenne, évidemment que la France est un pays fort. Je ne comprends pas cette folie.
Vous dénoncez ce matin et dans Libération la manière dont la Pologne traite les migrants, mais la France fait-elle mieux sur son sol ? Hier, le président de la commission d'enquête parlementaire sur l'immigration a dénoncé, je cite, une maltraitance d'État dans la manière dont le gouvernement traite les réfugiés. À Calais, dit-il, les évacuations des camps de migrants ressemblent à une battue de sanglier.
Je le sais, j'ai lu ça aussi, et j'ai eu honte. Et j'ai eu honte en lisant ça, parce que nous sommes plusieurs, très nombreux, au Parlement européen, à ne cesser de dire qu'on ne peut pas appeler les pays étrangers, je veux dire hors Union européenne, à respecter les droits de l'homme, si nous ne sommes pas nous-mêmes, dans nos 27 pays, totalement, à 3000%, sourcilleux sur les droits de l'homme.
Emmanuel Macron vous entend peut-être pas complètement.
Mais si, bien sûr.
Ah bon ?
Enfin, je l'espère, j'en suis certain.
Bernard Guetta était notre invité, merci et belle journée à vous.
Merci Léa, et à tout à l'heure.